Marie Renard, la cassette. Je ne vous raconterai pas, me dit-il, comment je réussis à m'emparer de la cassette qui renfermait les papiers secrets du prétendant. Le récit vous en paraîtrait fastidieux, mais la suite vous intéressera peut-être. Cette cassette, il fallait la garder, et la ruse seule me le permettrait. Dans ces conjectures, je me souvins fort à propos de deux choses dont la combinaison allait me tirer d'embarras. L'une était que je m'étais rendu locataire du fort Éloi pour une période de 12 années, et l'autre, que mon vieil ami Anselme avait une admiration à l'égard de cette citadelle marine, une admiration enthousiaste, et le désir d'y séjourner quand je voudrais bien le lui permettre. L'idée que j'avais eue de louer cet énorme donjon était baroque. Je m'en étais passé la fantaisie peu coûteuse, sans savoir le moins du monde ce que je pourrais faire de cette bastille battue par les flots. Un jour, franchissant son pertuis sur un yacht de plaisance, avec précisément où se trouvait Anselme, j'avais été impressionné par la majesté sévère du fort Éloi, qui se dresse tout seul au milieu de la mer. Pas un récif, pas une langue de pierre, pas une langue de terre, rien que la formidable muraille arrondie et les algues sinistres et massives qui en vont protègent l'entrée. Vauban a construit cela sur le fond même de l'océan pour compléter son système de défense côtière. À partir, nous contournâmes la forteresse. À l'ouest, un grand escalier de pierre sans rampe, d'un effet incomparable, plonge dans la mer. Sa pente épouse la courbe de la maçonnerie. Ses degrés aboutissent en haut à une porte dont les tempêtes ont tordu les ferrures. De vue, Anselme avait poussé des cris d'extase. Moi-même, je le répète, je m'étais senti puissamment captivé. On me dit que le fort abandonné, menaçant ruine, était alloué. Le surlendemain, j'avais signé le bail et depuis je ne m'en étais plus soucié. Des circonstances mettaient soudain le fort Éloi au premier plan de ma pensée. Ayant pris ma décision, j'allai voir Anselme et je lui dis ce que j'attendais de lui. Un séjour là-bas le séduisait-il? J'irai le retrouver dans une quinzaine. Il me répondit que ma proposition l'enchantait et que rien ne lui était plus agréable que la perspective d'une retraite dans un lieu aussi grandiose. Il partit donc presque aussitôt, accompagné d'un vieux et fidèle serviteur, et emportant force denrées alimentaires et de quoi camper dans les deux chambres de l'édifice.
L'été, il commençait et la température était clémente, ce qui faisait singulièrement facilitait toute chose. Je fis d'Anselme les recommandations. Au surplus, sa tâche n'était pas bien difficile. Personne, à coup sûr, ne viendrait l'importuner. Il n'avait plus qu'à m'attendre en jouissant tout son soûl de la mer, du ciel et de la solitude. Quelques jours plus tard, je pris le train moi aussi. Parvenu à l'extrême pointe des terres, je me trouvais et me traitais avec un pêcheur pour la courte traversée. Et bientôt, je vis se rapprocher devant la proue de notre pinasse à vapeur la masse imposante du fort Éloy, qui tout à l'heure n'était qu'une petite tache grise sur l'horizon. Au-dessus de ces créneaux, les cormorans volaient, battant l'air de leurs grandes ailes lentes. Anselme parut bientôt sur les ouvrages avancés. Il agitait gentiment son mouchoir. La pinasse pénétra dans le bassin que les algues ménageaient. Je congédiais le pêcheur en lui disant de revenir nous reprendre 48 heures plus tard, et grimpant par une suite de roches raides et rongées des eaux, j'arrivais dans les bras d'Anselme. Le brave garçon était sous l'empire d'une bienheureuse et vive exaltation. Je lui en demandais la raison avec le sourire d'un homme qui s'attend un peu à la réponse qu'on lui fera. Je pensais tout bonnement que le décor, non pareil en vérité, avait procuré à mon poète des satisfactions encore bien plus heureuses que celles qu'il avait prévues. La vérité était beaucoup plus étrange. Anselme me montrait un visage à la fois mystérieux, émerveillé, et il me pria d'attendre la nuit pour connaître ce qu'il appelait une chose extraordinaire, incroyable et charmante. Je me laissais faire, gardant ce sourire indulgent qu'on a pour les enfantillages des âmes simples et douces, promptes à l'admiration. Au surplus, la nuit venait, je n'aurais pas longtemps à attendre la révélation de son secret. Nous allâmes tout en haut sur la vaste terrasse, tandis que les cormorans, effarouchés, menaient dans le crépuscule autour du fort une ronde infatigable. J'avais apporté des provisions fraîches et le petit festin ne laissa rien à désirer. Il faut reconnaître que l'heure, le site, cette grande odeur céleste et océane composait une ambiance féerique. Anselme me regardait fréquemment d'une manière ambiguë, avec des yeux qui laissaient des reflets de joie bizarre, me faisait cependant malin plaisir de ne pas l'interroger. La nuit, Violette monta de l'Orient, parée d'une lune toute ronde de couleur orange. Oh, quand il fera tout à fait nuit, dit Anselme, elles viendront, je commence à les connaître. Je fis sur moi-même un effort méritoire et je gardai le silence. Nous tuâmes le temps à fumer sur la terrasse. En regardant se mouvoir, éclairé par le couchant et la lune, l'écume grondante qui nous entourait. Enfin, Anselme me prit par le bras et nous descendîmes dans la chambre qu'il occupait. Immédiatement, la musique mêla son charme à celui de la nature et Wagner régna sur les flots. « Regarde bien, » me dit Anselme à l'oreille, « regarde la mer. » Le vieux serviteur se tenait derrière nous. Lui aussi, il regardait la mer. En bas. Il avait l'air subjugué d'avance. Je me taisais toujours, continuant à jouer mon jeu. Mais combien j'étais impatient de savoir ce qui allait sortir de ce clair de lune merveilleux et des lames toutes ruisselantes d'un clair argenté. Et au bout d'un quart d'heure d'attente vaine, Anselme, inquiet, déçu, murmura « Mais je devais être là. Hier, avant-hier, j'ai aidé les premiers accords. « N'est-ce pas » ajouta-t-il en se tournant vers son domestique. « Oh oui, monsieur, » répondit l'autre, qui semblait aussi fort désappointé. « Mais qui est-elle ? » demandai-je enfin. Anselme ne répondit pas encore. Il différa quelques minutes, scrutant la mer, le pied des murailles et l'endroit où l'escalier s'enfonce dans, sous les eaux. Puis, au bout de ce temps, comme si je l'eusse interrogé à l'instant même, il chuchota. En ton hésitant, mais les sirènes. Quoi ? M'exclamai-je. Il reprit. Mais voici plusieurs jours qu'elles venaient, attirées par la musique. Elles étaient nombreuses. Elles allaient jusqu'à. Jusqu'à l'escalier, on voyait. Oh, mais le sirène, tu es fou. Puis l'angoisse m'étreignait. Je pensais tout à coup au stratagème qu'on avait pu employer d'un sous-marin. Je voyais débarquer en secret toute une figuration de nageuse. Anselme, balbutiai-je, le cœur battant. La cassette est toujours là, n'est-ce pas? Il rougit. Oh caché dans une casemate. Allons voir. Nous descendîmes précipitamment un colimaçon en ferrouille. Nos pas retentissaient mélodiques sur le grave vide du fort délabré. Au dehors, l'océan mugissait avec douceur. Et naturellement, la cassette avait disparu.